que Jonathan partage ce matin. Pourquoi ? Parce que son aide dans la famille Balbon et son aide Jonathan, il y a plusieurs choses qu'on aide chez eux, mais notamment c'est la passion pour Jésus, c'est des choses qu'ils ont vraiment, Jonathan et Elisa ensemble, la passion pour Jésus, le zèle pour l'évangile, mais aussi l'intégrité. Et dans le monde d'aujourd'hui, l'intégrité, c'est vraiment une valeur qui est vraiment très haute. Mais voilà des gens qui pratiquent ce qu'ils prêchent, qui vivent ce qu'ils prêchent. Et on en est témoin parce qu'ils font partie de la famille et on se voit régulièrement, on vit beaucoup de choses ensemble. Donc c'est une joie pour nous d'avoir Jonathan. Jonathan, c'est une des personnes autour de moi qui souvent me dit, si vous avez lu son livre, La vision du stade, si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage vraiment à le lire, c'est un livre vraiment super. Il se lit très vite tellement, il est passionnant. Mais Jonathan raconte souvent ses échanges avec Dieu, ses échanges avec le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'on a, c'est une joie.
Quelques heures. Il y a un mois et demi, nous avons, alors je suis marié à la femme la plus extraordinaire qui s'appelle Elisa Valbon, qui fait partie peut-être d'un groupe de louanges que certains connaissent, qui s'appelle le collectif Sous-Vert. Abba Père, je suis ça. Tout ça, c'est voilà, c'est nous, avec un autre ami qui s'appelle Samuel Olivier. Et il y a 2 mois de ça, on a 2 enfants, il y a 2 mois de ça, nous avons une 3e petite fille qui s'appelle Chloé, qui est la voici. Et sa venue dans le monde a été un petit peu compliquée parce que mon épouse, alors qu'on n'aurait jamais pensé, elle a accouché à l'hôpital par césarienne et elle a fait une hémorragie interne. Laissez-moi vous expliquer qu'on a passé le couloir de la mort, l'enfer, c'était compliqué. Et dans ce moment de torpeur et de difficulté, je voudrais vous remercier à tous ceux et celles qui ont prié pour nous. C'est super, le WhatsApp Connect. Nous, on est à Grenoble, mais en tout cas, on s'est sentu énormément soutenu par la prière, par vos prières. Alors, un immense merci du fond du cœur. Merci, merci à tous ceux qui ont prié. Venez, je vous prends dans les bras, enfin, virtuellement. Merci, un énorme merci. Et donc, figurez-vous qu'à côté de... Il y a quelque temps, on a quitté Paris et on est venu à Grenoble et Dieu nous a mis à cœur de démarrer et d'implanter une église à Grenoble. Grenoble, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une grande métropole entourée de montagnes. Et alors qu'on a commencé à échanger avec les responsables de l'église ici, en couple, on a senti une direction de Dieu, d'une connexion à Connect, c'est peu dire, mais une connexion était possible. Et on a commencé à prier, à phosphorer, à penser, à réaliser l'avenir, parce que juste à côté de notre maison, c'est une maison de fou, il y a 300 mètres carrés, et juste à côté de la maison, nous avons, si tu veux mettre la prochaine diapo, une chapelle. Waouh ! Ouais, je pensais que ça allait faire de l'effet, mais bon... Et donc, juste à côté de la maison, véridique, on a une chapelle qui fait à peu près 50 mètres carrés plutôt. Et ça a été construit par des Templiers en 1232. Il y a un ciel ouvert, la présence de Dieu est là. Et on a décidé d'inviter monsieur, madame, tout le monde, des gens, des chrétiens. Venez ici et si vous voulez passer un temps dans la présence de Dieu, vous êtes les bienvenus. Et on a commencé à faire, on a ouvert notre maison et puis on était 30 personnes. On a dit, tiens, c'est pas mal pour un premier réunion. On a commencé une deuxième réunion, on était 50 personnes, et on a dit, stop, on peut plus gérer le monde. Donc, j'ai appelé vos pasteurs. Je leur ai dit, j'ai un problème. Houston, on a un problème. Donc, ils sont venus, et puis on a commencé à réfléchir ensemble. Et il y a d'autres nouvelles qui vont venir, mais ils sont là. Alors, voilà comment on implante des églises. Vous voyez, c'est à côté de la bière et de la prière. Et il y a un moment donné, quand ils ont trop bu, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à être prophétiques, en tout cas. Mais c'était génial et Dieu était là. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une partie de Connect de ce cœur, de cet ADN-là que vous vivez, qui est en train de démarrer à Grenoble. Et à bon entendeur, s'il vous arriverait de passer vers Grenoble ou vous arrêter, nous ferions une joie de vous recevoir, parce qu'on sent qu'il y a une union dans l'esprit. Voilà pour les nouvelles. Donc, merci. Merci à votre accueil. Ça fait plaisir. Moi, ce matin, je me sens ici en famille. Ça fait depuis des semaines, voire peut-être des années. Non, des semaines, peut-être des mois. En tout cas, sûr que je n'ai pas prêché. Donc, merci. Si je balbutie, si je me trompe, je sais que vous me ferez grâce. Mais en tout cas, je me sens super en famille. C'est une joie d'être avec vous. Je voudrais simplement vous inviter à fermer les yeux. Saint-Esprit, je te prie de venir ici maintenant. Par ta présence, je te prie de oindre mes lèvres, de mettre une parole fraîche, que ceux qui ont soif, tu connais les histoires, les trajectoires humaines de chacun ici dans ce lieu. Seigneur, nous voulons ouvrir maintenant nos cœurs. Nous te demandons de faire quelque chose que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire par nous-mêmes. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen et amen. Comme vous le savez, Matthieu l'a présenté et nous sommes dans cette journée de Pentecôte. Et si je devais donner une pensée ou un titre à ce message, c'est « Pentecôte, une rencontre avec le Saint-Esprit ». Sans plus tarder, on va regarder ensemble dans Acte 1, verset 4. Si vous n'avez pas votre Bible, les versets vont apparaître à l'écran. Je le lis pour vous. « Or, un jour, c'est Jésus qu'il prenait, alors que Jésus prenait le repas avec eux, entre guillemets ses disciples, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre que son Père leur accorde le don. » D'autres versions disent « le cadeau ». Qu'il leur avait promis. C'est le don, le cadeau que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean vous a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Et au verset 8, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, je ne l'ai pas noté ici, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'au bout du monde. Jésus, regardez-moi, Jésus monta au ciel. Et ses disciples furent un bref moment tout seuls. Jésus a quitté physiquement les disciples. Et désormais, à ce moment-là, Jésus était monté, il était assis à la droite de Dieu. Et les disciples n'avaient plus le contact, n'avaient plus la proximité, n'avaient plus quelqu'un à qui parler. Mais Jésus, il leur a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai quelqu'un qui va me représenter. C'est littéralement un représentant, un accompagnateur. Qui va être à côté de vous, un guide, un conducteur, un conseiller. Vous ne serez pas laissé à vous-même. Et c'est cette image-là, juste après l'ascension de Jésus, il y a les disciples qui vivaient un peu apeurés, parce que je vous rappelle que Jésus a été crucifié par le parti religieux de l'époque, et il cherchait les disciples. Même il y a eu toute une persécution dans la première église, il cherchait les disciples, et voire même comment les faire mourir. Je vous rappelle que l'apôtre Paul cherchait les disciples pour les mettre à mort, etc. À chaque fois, ils étaient ensemble, mais à chaque fois que quelqu'un frappait à la porte, ça flippait grave. Vous voyez, c'est dans ce contexte-là, un peu apeuré, où ils cherchent, et Jésus est parti, et ils se rassemblent ensemble à la recherche d'une force, d'une puissance, d'une assistance, d'un partenaire, un remplaçant de Jésus. Et les disciples ont grandi, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était des Juifs, ils ont grandi avec l'observance de la loi. Leur référentiel, c'est les 10 commandements. Et pour changer le monde, ils avaient besoin plus que de la loi. Ils avaient besoin de plus. Ils avaient besoin plus d'un code, de quelque chose qu'on doit appliquer. Et j'aimerais vous dire qu'être guidé par le Saint-Esprit, c'est mieux que d'être guidé par la loi. Et j'ai vu un reportage il y a quelques temps qui expliquait que lorsqu'un Boeing, moi je ne m'y connais pas grand-chose en avion, mais ça me passionne de voir ces genres de reportages, lorsqu'un Boeing fait un décrochage, c'est-à-dire qu'il perd... Qui a déjà pris l'avion où des fois tu as des trous d'air, tu as l'impression qu'on va tomber? Quelqu'un a déjà vécu ça? Ça fait vraiment peur, n'est-ce pas? Là, on parle d'un décrochage, c'est-à-dire que décrochage, on y va, on crache, dans 3 minutes, on touche le sol, on rejoint l'apôtre Paul, le ciel, les anges. C'est une question de minutes. Ça, c'est un décrochage. Et à ce moment-là, imaginez, c'est la peur, les cris, le stress énorme, on est en décrochage, on va se cracher. Et le pilote essaye de garder son calme. Et en fait, il a ce qu'on appelle une checklist. C'est-à-dire, il doit lister tous les problèmes très rapidement, le plus rapidement possible. Il doit lister toute une liste de problèmes, de vérifications, éventuellement de problèmes qui déclencheraient une panne. Et cette liste a été établie par des gens ingénieurs très savants, très professionnels. Et si vous voulez, on ne peut pas aller au point 29 si vous n'avez pas validé le point 12. Vous me suivez? Donc c'est point numéro 1, ok, check, point numéro 2, check, et pendant ce temps on est en train de crever, on va frapper, et là c'est à toute vitesse, ils essayent de vérifier tous ces points-là, et dans le crash dont il était évoqué, en fait ce qui s'était passé c'est que le problème était au point 19, et que le pilote n'avait pas eu le temps de se rendre jusqu'au point 19, il était juste au point 15. Du coup, la grande réflexion des ingénieurs, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas mettre le point 19 au point 15? Sauf que le point 15 était très important, il faut respecter cet ordre de priorité parce que ça ne règle pas le problème de fond. Et parfois, j'aimerais vous dire que la vie chrétienne, c'est un petit peu comme ça, c'est-à-dire que On essaye de respecter la loi, une checklist, et on traverse une période difficile, et on est un peu là, notre vie semble cracher, notre vie dépend un peu de la loi, on essaye de trouver le problème, on a la liste de toutes les bonnes œuvres qu'on a fait, qu'est-ce qui se passe pas. Et parfois, peut-être certains d'entre vous, vous l'avez vécu, j'ai tout bien fait, et ma vie semble cracher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend de quoi je parle ? J'ai pas l'impression d'avoir manqué, et pourtant ma vie est en train de se cracher. Et j'aimerais vous dire que lorsque nous avons une relation avec le Saint-Esprit, il a cette capacité de directement aller à la source du problème. Directement, il va pointer les choses qui ont besoin d'être réglées, les choses qui ont besoin d'être débloquées dans notre vie, les mensonges que j'ai adoptés dans mon âme, les mensonges que je crois sur Dieu, sur moi-même, et qui me rendent la vie imbuvable. Le Saint-Esprit a cette capacité, comme un laser, de scanner directement ce qui ne va pas. Souvent, on pense, il y a plein de problèmes dans ma vie, et il y a plein de pannes, ces choses qui sont là, je ne supporte pas ma femme, je ne supporte pas mon employeur, mais en fait, ce que Dieu veut te guérir, c'est du rejet. On pense qu'il y a un problème qui est là, mais Dieu sait exactement où est la panne. Et les disciples étaient, et c'est vraiment ce qui se passait, c'est comme si les disciples étaient en train de migrer d'un référentiel de la loi. Déjà, ils l'avaient pas mal fait avec Jésus, Jésus leur a tellement enseigné de choses, mais à ce moment-là, c'est maintenant, il faut qu'on le fasse, il faut que tu te jettes à l'eau. Et il migre de la loi à la conduite de l'esprit. Et acte 1, après cela, Jésus s'éleva, et c'est ce qu'on évoque, au ciel sous leurs yeux. Et au verset acte 1, 12, les apôtres quittèrent la colline que l'on appelle le mont des Oliviers, environ d'un kilomètre de Jérusalem, ils rentrèrent dans la ville. Et dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison, ce qu'on appelle la chambre haute, où ils se tenaient d'habitude. Et tous, d'un commun accord, ils se retrouvaient ensemble pour prier, avec plusieurs femmes. Je m'attendais à un amen filmé, non ? Mais bon. Avec plusieurs femmes. Ok, d'accord. Et là, débute une recherche, une attente active et une recherche. C'est-à-dire, on attend quelque chose, mais on n'est pas simplement dans l'attente, qu'est-ce qui va se passer, mais on attend, mais il y a quand même une recherche active. C'est-à-dire que chaque jour, ils se rassemblaient ensemble, ils jeûnaient, ils priaient, selon la joie, je dirais l'esprit juif de l'époque, le référentiel de l'époque, peut-être il chantait des psaumes, des hymnes, des chants de l'époque, des compositions peut-être, etc. Ils priaient ensemble et on attend quoi ? On ne sait pas, mais on l'attend. D'ailleurs, vous savez quoi ? Quand le Saint-Esprit est venu et il est descendu sur eux, c'est la seule fois dans toute l'histoire de l'Église où ils étaient d'accord sur le fait que c'était le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'avaient pas de, d'exemple, ils n'avaient pas d'image à quoi ça ressemblait. Vous me suivez ? Donc quand il est venu, il dit, bah écoute, ça peut être que lui, ça peut être que ça. Vous me suivez ? C'est au moins une fois dans la vie, ils étaient d'accord. C'est qu'après, plus tard, on a dit, certains courants d'église, est-ce que c'est Saint-Esprit ? Nous, on est pentecôtistes, on n'est pas de pentecôtistes, on est baptistes, etc. Il y a tout eu des différences, mais c'est venu que plus tard. Mais à ce moment-là, certains n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, ils ne l'expérimentaient pas, mais ils ont placé leur foi dans le fait que Dieu allait nous offrir ce cadeau. Et on le lit ensemble maintenant, on rentre, on regarde ensemble, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Acte 2, prochaine diapo. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient ensemble au même endroit. Tout d'un coup, un grand bruit survint du ciel, et c'était comme un violent coup de vent qui s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. J'ai bien la bonne... C'est la bonne référence, ouais ? C'est bon, ok, d'accord. Au même moment, ils virent apparaître une sorte de langue qui ressemblait à des flammèches, d'autres versions disent des langues de feu. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent remplis du Saint-Esprit et ils commencèrent à parler, ce que disait Matthieu, dans différentes langues, chacun s'exprimait comme le Saint-Esprit lui donnait de leur faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de tous les peuples du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles. Ils disaient, voyons donc, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes, Élamites, et nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Ponte, la province d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye, près de Cyrène. Bref, il y avait toute l'Europe. Ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion, nous venons de la Crète ou de l'Arabie. Et pourtant, chacun de nous entend parler dans sa propre langue des merveilles que Dieu a accomplies. Un des signes de la Pentecôte, c'est que l'Esprit Saint nous donne d'exprimer les merveilles de Dieu dans un langage que les autres peuvent comprendre. Des milliards de personnes sur Terre, parfois, ne comprennent pas tellement l'Église ou ne se retrouvent pas dans l'Église parce que nous avons développé un peu une espèce de vase clos très très à nous, un langage à nous. Et une des vertus, un des signes de la Pentecôte, c'est que Dieu nous donne une onction, il nous oint pour aller communiquer son esprit à des gens qui ne le comprennent pas, qui ne l'entendent pas comme ça, mais il nous donne un langage, il nous donne des images, il nous donne des idées pour communiquer sa vérité dans des termes et dans un langage que les autres peuvent comprendre. Est-ce que vous me suivez ? Ça leur parle. Est-ce que vous avez déjà vu, parfois on parle avec quelqu'un, on dit tiens, on se comprend. On est sur la même longueur d'onde, n'est-ce pas ? On arrive à se comprendre, on arrive à se capter. Et parfois, je dirais ceci, c'est que l'Église, pour moi, de plus en plus, par le Saint-Esprit, on est appelé à exploiter, je dirais, des langages, que ce soit un langage pour transmettre l'Évangile, mais il y a l'art, les spectacles vivants, il y a la musique, il y a des clips vidéo, il y a les associations caritatives, il y a toutes sortes de façons de langage par lesquelles nous pouvons aller toucher les multitudes par le Saint-Esprit. Vous êtes avec moi ? C'est là où le Saint-Esprit va nous inspirer. Et je prie ce matin qu'il puisse vous inspirer, qu'il puisse vous donner un nouveau langage pour pouvoir transmettre les merveilles de Dieu dans une langue que les gens comprennent. Un bruit si intense, la foule essaye de comprendre, des juifs de tout le Proche-Orient, du bassin méditerranéen, ils surpris que des hommes un peu galiléens, c'était un peu des hommes illettrés ou pas très cultivés, leur parlent des merveilles de Dieu et ça les a choqués dans notre propre langue. Et en ce temps-là, pour des juifs, l'hébreu était la langue la plus pure. C'était la langue où on parle des merveilles de Dieu. Et c'est incroyable que le Saint-Esprit a sorti de cela. Il a sorti des ornières d'une certaine... Pour un peuple juif de l'époque, tradition juive, il s'est mis à glorifier Dieu en arabe, en crétois, en grec. Et il y avait un émerveillement de cela. En fait, cela n'a une des vertus du Saint-Esprit, c'est que ça n'a pas tellement à voir avec moi, ça a à voir avec lui. Ce que lui est en train de faire, ce que lui veut faire. On surfe et on se met avec lui des idées nouvelles, un langage nouveau pour toucher les multitudes. Et j'aimerais vous dire ceci, ce n'est pas simplement réservé à une élite des anciens, des leaders, des pasteurs. Moi, je suis béni, il y a deux jours, je lisais un message sur le WhatsApp de l'église Connect où Olivier nous parle, et moi je suis jaloux de ça, il nous parle de comment dans son travail il amène le royaume de Dieu, et je ne veux pas trahir ton témoignage, mais il est venu à parler à une de ses clientes, il parlait de Dieu à une des clientes, il commence à avoir une parole pour elle, une image, etc. La nana elle pleure, etc. Waouh, 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 big applause, merci Olivier, c'est génial, il a une percée. Dans son travail, dans son langage à lui, quand vous allez le voir, il parle seulement des chiffres. Dans son langage à lui, il fait venir l'onction de Dieu. Mais j'aimerais dire, et je veux vous défier, ce n'est pas réservé seulement à quelqu'un. C'est réservé à chacun d'entre nous. Que vous soyez boulangère, que vous soyez médecin, que vous soyez fleuriste, laissez Dieu vous inspirer un langage nouveau pour pouvoir communiquer les réalités de Dieu. Quelqu'un dit amen ? Donc ça vous parle. Et moi, je me rappelle, j'avais, je crois, entre 15 et 17 ans, peut-être. Figurez-vous qu'en fait, moi, j'ai quelques parents qui ont une ferme ici, pas très très loin, à Poët-Laval. C'est à côté de Dieulfi. Et je me rappelle, ce matin, je faisais la route, et je dis, ouais, c'est quand même bizarre. Et ça me remémorait cette histoire. Je devais avoir 16-17 ans. Et à 16-17 ans, je me suis un peu calmé aujourd'hui, mais à 16-17 ans, j'avais cette capacité d'évangéliser tout ce qui bouge. Mais tout ce qui bouge. tout le monde devait aller au ciel. J'aurais baptisé un chien dans de la neige. Enfin, vous l'avez jeté. Et je me rappelle, mon père avait voulu faire une sorte de retraite spirituelle. Du coup, il est arrivé dans une ferme à Pointe-Laval où on avait de la famille, une chambre d'hôte. Et j'étais jeune adolescent, je suis un peu hyperactif, parlais beaucoup, speed beaucoup. Et au bout d'une journée, deux jours, je devenais fou. Et là, je commence à dire, papa, j'en ai marre, moi j'ai envie d'évangéliser, j'ai envie de parler. Mais si vous êtes déjà allé à Pointe-Laval, comment dire, autant dire que c'est pas la foule. Hein. Et je suis là, je dis, papa, et mon père, il est fatigué. Tu sais, papa, c'est plus un ancien, il est posé avec sa Bible, il est là, il prend ses temps de silence et tout. Moi, j'ai dit, papa, il y a le monde qui est en train de se perdre. Je sais pas si t'es au courant, mais Dieu veut le sauver. Bon, vous voyez, c'est un peu le délire. Et mon père, fatigué, dit, chérie, sors dehors, évangélise qui tu veux. Et je me rappelle, je sors dehors, 17 ans, 15 ans, je sais plus, dans ces eaux-là, et je marche, et je sais pas quoi faire de ma vie, quoi. Je marche au bord de la route. Et je vais de Dieulfi, donc on était à Dieulfi, et je vais à Pointe-Laval, il y a 8 km. Et je marche, et je me rappellerai toujours, alors que je suis en train de marcher, il y a un fermier qui est en train d'arroser son champ, il me voit galérer, plein de cagnards, soleil, je marche ici 14 heures, je sais pas quoi faire de ma vie. Et le gars me dit, petit jeune, fais du stop, ça marche bien ici. Et ouais, c'est vrai, du stop, moi je viens de la ville, du stop, je savais pas que ça marchait ici. Bon, depuis l'affaire Le Landais, ça marche moins bien. En tout cas, mais à l'époque, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais à l'époque, il y a peut-être 20 ans, eh bien, tu faisais du stop, les gens s'arrêtaient. Hein, vous voyez ? Gens s'arrêtaient, prenaient. Et puis là, je dis, écoute, c'est vrai, du stop, pourquoi pas ? Et du coup, je me mets à faire du stop, et tout de suite, bam, c'est vrai, ça marche à la campagne. Une bagnole s'arrête, je monte dedans, bonjour madame, bonjour. Elle me dit, vous allez où ? Je me dis, 8 km d'ici, Dieulfi, elle m'amène. Puis on commence à parler, qu'est-ce que vous faites dans la région, etc. Mais je dis, mon père, il est pasteur. Ah, pasteur, mais c'est incroyable, etc. Mais en fait, Dieu a changé ma vie, madame. 17, mais t'es bien jeune homme pour que Dieu change ta vie. Je dis, ouais, et puis je parle mon témoignage. T'as 5 minutes. T'as 5 minutes pour l'évangéliser. T'as 5 minutes pour la convertir. Vous comprenez ? Par l'esprit de Dieu. Laissez l'esprit vous inspirer, puis. J'étais comme ça, puis je racontais simplement. Et la dame, elle arrive devant Dieulfi, touchée. Et puis elle me dit, mais écoute, c'est... Oui, on était pas de la Val Dieulfi, c'est ça. Elle arrive devant Dieulfi, et bien, tout touchée. Merci, petit jeune homme, merci. Écoute, ça m'a fait du bien au cœur, vraiment. Ma vie, merci, madame, je vous en prie. Toute l'honneur était pour moi. Je ferme la porte, je dis, Seigneur, waouh, c'est extraordinaire. Je kiffe ça. Je refais du stop dans l'autre sens. Et je pars à Dieulfi, et de Dieulfi, je vais à Pointe-Laval. J'ai fait ça toute l'après-midi. Il n'y avait rien à faire dans le coin. Il n'y avait rien à faire. Est-ce que vous comprenez un langage nouveau, des idées nouvelles ? Il n'y avait rien à faire. À un moment véridique. À un moment, je crois que c'était plus un aller genre Pointe-Laval, Dieulfi. Mais parce qu'on était en campagne. Comment tu veux évangéliser en campagne ? Non mais vraiment, ça c'était une idée par l'esprit, fait du stop, en tout cas. Et je vois arriver, je m'en souviendrai toujours, je vois arriver une bagnole, mais toute cabossée de tous les côtés, un gars avec des cheveux, c'était l'époque, c'était le style à l'époque, tu sais les cheveux verts, punk, etc. Il arrive, la bagnole, elle tremblait, je fais stop, il s'arrête, il ouvre la porte, il y a un nuage de cannabis, je devais le découper au couteau pour pouvoir rentrer dedans, je rentre. Je dis, wow, gars, hey, tu sais quoi, t'as besoin de Jésus. Il me dit, comment t'as fait pour le rencontrer? Et je lui mets à parler de Dieu, et puis il m'a amené, il était le New Age, machin. Puis je me rappelle, je prie pour lui, j'arrive devant Dieulfi, et il devait être 18h, j'étais rincé. Je veux rentrer chez moi. Et là, il y a une voiture qui s'arrête, je suis nettoyé, je suis vidé, je veux rentrer à la maison. Je rentre dans le dernier élu de la journée, je rentre dans la voiture, un petit papy, une beauté, un petit bouc et tout, et j'en dis, petit tuff, 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 il roulait tranquillement à 30 à l'heure. Et là, moi, je suis nettoyé, et je sens le Saint-Esprit qui me dit, parle-lui de moi. Je dis, Seigneur, non, ouais. Je sais pas si t'en as déjà vu, mais j'ai été quand même bien productif durant la journée, là. Là, je suis fatigué, je veux rentrer chez moi, desperado, c'est tout. Et Saint-Esprit, nous, parle-lui de moi. Bonjour monsieur, bonjour, ça va, vous êtes dans la région, etc. Puis j'avais quelques petites phrases d'accroche que je m'étais préparé. Et Elle me dit, oui, qu'est-ce que vous faites, vous, jeune homme? Et moi, je suis chrétien. Ah, vous êtes chrétien? Moi aussi. Vous êtes chrétien? Il me dit, oui. Puis je commence à lui dire, bah oui. Mais il me dit, mais comment ça, t'es chrétien? Mais je dis, ouais, mais en fait, Dieu m'a mis à cœur d'évangéliser. Et le gars, en fait, c'était un pasteur, je vous parle de ça il y a 20 ans. C'était un pasteur dans la région. Enfin, il tenait un petit groupe de prière. Je dis, mais c'est pas possible, c'est extraordinaire. Waouh, mais c'est génial. chrétien, ouh, alléluia, tu es bon. Et puis, il roule comme ça. Et puis, il me pose la question, mais dis-moi, jeune homme, t'as évangélisé combien de personnes cet après-midi? J'en sais rien. Mais, ouh là là, ça n'a pas arrêté toute l'après-midi. Mais il y avait le punk, il y avait la petite dame, il y avait ceci, cela. Et le gars, il conduit. Et puis, tout d'un coup, le papy me dit, tu sais quoi? Je crois que je vais me mettre à faire du stop. Vous le croirez ou pas, je suis invité il y a quelques années de cela. Je raconte cette histoire dans une conférence de jeunesse. Il y a deux jeunes filles à la fin de la réunion qui viennent me voir et qui me disent « Tu ne le croiras pas. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est pas lui ?» On n'en sait rien, mais il y a un papy, il fait du stop, il fait de l'évangélisation. Je vous parle de ça il y a 20 ans. De recevoir des idées nouvelles, un des fruits de la Pentecôte, c'est de recevoir un langage, une pensée, une image, une idée, quelque chose qui va me permettre de transmettre la joie, la paix, la patience, l'amour, quelque chose d'autre extérieur à moi. Jésus nous donne une autorité, une puissance pour pouvoir changer le monde. Mais ce qui est touchant dans cette vision de l'esprit-là, c'est qu'il nous donne aussi sa capacité de pouvoir changer notre caractère à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit nous donne une capacité divine de mettre de l'amour là où il y a de la haine, de l'humilité là où il y a de l'orgueil, de la persévérance là où il y a du découragement, de la joie au lieu de la tristesse, du pardon où il y a de la rancœur. Ça parle à quelqu'un ? Je continue. De l'espoir là où il y a du désespoir. Le Saint-Esprit vient établir sa demeure en moi, m'offrant une capacité inouïe d'accomplir des choses que par moi-même je ne pouvais pas. Ça, il y a ce que j'appelle les fruits de l'esprit. Et maintenant, je vais rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus pratique. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, de mon expérience un petit peu de jeune chrétien et jusqu'à aujourd'hui, alors qu'on sert l'Église, souvent j'ai vu que par rapport à cette question du Saint-Esprit, il y a souvent des peurs, des craintes. Des peurs et des craintes. Un des freins souvent que je rencontre dans l'Église, c'est que les gens ont peur de l'expérience des autres. Je ne sais pas si vous le voyez, mais Dieu le Père, c'est bien. J'aime cette image de Dieu le Père qui coucouning, qui m'aime, qui m'embrasse. Bon, l'image de Dieu le Père, c'est bon. Jésus, alléluia, Jésus, un saint homme, il est mort à la croix, le Fils de Dieu, alléluia, merci Jésus. Mais le Saint-Esprit, j'ai un peu plus de mal à le représenter. Même en anglais, on parle de Holy Ghost, le saint fantôme. T'imagines, ils ont encore plus de mal que nous. C'est un peu abstrait. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand le Saint-Esprit descend sur une personne, cette personne, c'est son expérience. C'est sa façon dont le Saint-Esprit la touche. Et souvent, moi, j'arrive pas à m'identifier à ce que Dieu fait avec les autres. J'aimerais vous dire ceci, ça n'a rien à voir avec les autres. Ça a à voir avec qui il est, lui, et ce qu'il veut faire en toi. Je vais vous donner un exemple. Moi, je viens d'un arrière-plan qui était très, très, très légaliste. Les femmes, dans nos réunions, les femmes étaient séparées des hommes, les femmes étaient voilées. Vous n'aviez pas le droit de mettre un pantalon, je vous aurais d'ailleurs toutes jugées, mais seules des femmes ointes portaient des jupes sans boucles d'oreilles, sans apparat. On était très, très, très légalistes, très, très durs. Voilà, ça, c'est de l'arrière-plan d'où je viens, dans lequel je me suis construit dans ma foi et dans mon enfance. Et à cette époque-là, quand le Saint-Esprit descendait sur une personne, la personne se mettait à pleurer. Ah, c'est beau ça. Ça, c'est bien. Elle pleure, elle se repent, c'est les larmes, la tristesse. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Vous me suivez? Et puis j'ai commencé à grandir, à fréquenter d'autres églises, et à fréquenter d'autres gens, un peu comme ces garçons-là. Et quand Dieu leur tombe dessus, ils se mettent à rigoler. Eh, hey, mais ça me dérange. Il y a des gens, waouh! Ils se mettent à. Est-ce que vous me comprenez? Combien il y a des saints qui ne comprennent pas les farfelus d'à côté? Est-ce que vous me suivez? Ça choque, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a que moi qui suis choqué? Est-ce qu'il y a certaines personnes, vous avez été choquées par le fait que quelqu'un d'autre soit visité d'une autre façon? Je me sens pas tout seul. Et ça fait bizarre, hein? Il y en a qui se mettent à trembler. Ça va bien aller. Dieu les visite comme ça. Un jour, je suis parti en Ukraine. Je suis allé à Kiev, j'ai fait toute une campagne d'évangélisation avec un évangéliste qui s'appelle Franck Alexandre. Le Saint-Esprit tombait sur les gens. Il y avait des mamies qui s'avançaient, elles se mettaient à pleurer et ils sortaient tous des mouchoirs blancs. Et ils se mettaient à pleurer comme ça avec des mouchoirs blancs. Et là, le pasteur, moi, je regarde, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Il dit, ça, c'est le Saint-Esprit. Il dit, chez nous, c'est comme ça. Quand le Saint-Esprit tombe, voilà ce qui se passe. Je dis, chez nous, c'est pas comme ça. Est-ce que vous comprenez que le Saint-Esprit fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut? Et quand il touche quelqu'un, la personne va réagir différemment. Mais c'est sa façon de réagir. Maintenant, il ne faut pas que la façon dont Dieu agit sur quelqu'un d'autre va être un frein pour comment il va agir avec moi. Je vous inviterai à vous laisser. Et une des choses qui nous bloque, moi, pendant longtemps, j'étais bloqué avec le Saint-Esprit parce que j'étais très, très... comprenez, il y avait des forteresses. Non, mais le Saint-Esprit ne peut pas faire ça et ça me bloquait. Donc, j'aimerais vous dire, c'est... Il faut passer ce stade-là où, je l'ai marqué juste ici, de lâcher prise. Le Saint-Esprit est tout à fait conscient de notre désir, de notre peur absolue, de lâcher prise. Donc, s'abandonner, c'est un processus. Le Saint-Esprit n'arrive pas dans notre vie pour nous apeurer. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un enseignant de la peur. Merci, mon ami. T'es inspiré par le Saint-Esprit. Nous pouvons nous abandonner, lui faire confiance. Allez, go. Laissez-vous toucher par le Saint-Esprit. Maintenant, on va un petit peu plus loin dans cet esprit-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'esprit religieux, il va catégoriser comment Dieu doit agir. Je m'explique. Si Dieu veut me toucher à moi, il doit le faire comme ça, entre 10h et midi le dimanche matin. Il doit le faire sur un champ que j'aime, celui-là particulièrement. Et je commence à mettre le permis de construire, le permis dans lequel Dieu doit venir me rejoindre. Et il y a un moment donné, on se dit, mais je ne comprends pas. Dieu ne vient jamais me voir. Oui, mais en fait, Dieu, il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas à tes conditions qu'il vient. Et à un moment donné, on casse notre propre schéma mental de comment il doit agir. Et notre soif de lui est plus grande. Et on dit, Seigneur, peu importe la façon dont tu viens, viens, tombe-moi dessus. Je veux plus de toi. Que je tremble, que je pleure, que je saute, que je chante. Je m'en fous. Plus de toi. Mais ce n'est pas simplement une manifestation. C'est que quand Dieu te tombe dessus et qu'il fait quelque chose en toi, il va y avoir un fruit qui demeure et qui est éternel. Amen. Et ce qui se passe, c'est que sa voix va commencer à résonner à l'intérieur de moi. Sa voix part à mon esprit. J'aimerais m'attarder un petit peu là-dessus. Les gens, souvent, ils s'attendent à ce que le Saint-Esprit parte de façon audible, une voix extérieure. Je me retourne, je l'entends parler. Oui, des fois, mais souvent, et je dirais, dans mon expérience, les 90% du cas, voire même plus, il parle avec une petite voix à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Et c'est dans ma tête, c'est dans mes pensées, c'est dans mon esprit. Dites avec moi, je suis un être esprit. Dieu est esprit. Donc quand Dieu vous parle, il va vous parler à qui? On est d'accord? Vous êtes âme, corps, esprit. Dieu, quand il parle, il va parler à votre esprit. Donc comment ça va se matérialiser? Ben, vous avez une petite voix à l'intérieur qui va parler. Et d'ailleurs, souvent... Ça vous est pas déjà arrivé? Il y a le Saint-Esprit qui parle dans votre cœur, mais parce que vous le reconnaissez un peu à part, ou parce que vous n'avez pas appris à le reconnaître, il y a un moment donné, cette petite voix, tu ne l'écoutes pas, arrive exactement la situation que cette petite voix t'avait dit, t'as dit, mince, j'aurais dû m'écouter. Combien c'est déjà arrivé? Ah là là, j'aurais dû, Dieu me l'avait dit. Il faut que vous appreniez tout simplement à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a un brouillard de toutes sortes de pensées qui viennent. Ça, c'est souvent parce que le diable brouille la fréquence pour qu'on soit moins actif, moins tranchant dans la communion avec l'Esprit-Saint. Souvent, ça passe par des portes, par des mensonges, par des blessures. Mais quand on ferme les portes, les mensonges et les blessures, on entend mieux la voix du Saint-Esprit. Et après, troisième fois, je ne veux pas faire un cours là-dessus, mais il faut prendre un risque. C'est que plus tu suis la petite voix qui te parle intérieurement, plus elle te rapproche de Dieu. Et j'aimerais dire ceci, c'est que cette petite voix, souvent, elle vous amène la paix et la joie. C'est un des signes catégoriques pour pouvoir suivre. Vous êtes avec moi? Donc, j'aimerais qu'on puisse grandir ensemble, vous, à l'écoute de cette petite voix qui est extraordinairement puissante pour pouvoir faire des choses dont nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Nous devons grandir ensemble ici à Connect et nous à Grenoble dans cette capacité à entendre et suivre cette petite voix qui ne vient pas toujours avec tempête et fracas, mais une petite voix, un murmure, Mais alors que je fais ce qu'il me demande, j'ouvre le ciel et le miraculeux se passe. Amen. C'est tellement une réalité. Et il y a des gens, à chaque fois, je parle de comment le Saint-Esprit me parle, et des gens disent, mais moi j'ai peur que ce soit moi. N'est-ce pas? J'ai peur que ce soit... Je m'invente des films, je me crée des voix, je pense, mais Dieu parle au travers de tes pensées, donc c'est normal que tu penses. Est-ce que vous me suivez? Il parle comme ça. Et voici, j'aimerais vous prenez ce verset-là, notez-le dans votre iPhone, marquez-le dans la voiture, marquez-le chez vous, mais voici une des promesses que Dieu nous fait, c'est Jésus qui parle. Il dit, il y a des pères et des mères parmi vous. Lequel d'entre vous donnerait-il un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Si on lui demande l'Esprit Saint, il va vous l'envoyer, c'est une de ses promesses. Il est mort à la croix pour ça. Donc, c'est pas simplement un droit que vous avez de la nouvelle naissance que Dieu vous donne. Dieu est esprit et c'est à votre esprit qu'il s'adresse. Il va parler dans votre tête, dans vos pensées. Et parfois, certains pensent que c'est pas Dieu, mais en fait, c'est juste, il faut apprendre à surfer, à entendre et reconnaître sa voix. Mes brebis reconnaissent, entendent et reconnaissent ma voix, nous dit Jésus. Et quand on suit le Saint-Esprit, sa voix, au milieu même du désert, au milieu des pires tourments, même au pire désert, il a pourvu une source de bénédiction. Je termine avec ce témoignage-là. Et j'ai une jeune fille qui m'a touché il y a des années de cela, qui s'appelle Élise Westel. Et c'est une fille qui avait ressenti un appel de Dieu pour pouvoir se mettre ce qu'on appelle au ministère, c'est-à-dire dédier sa vie et servir Dieu de toutes ses forces. Elle avait à l'époque une trentaine d'années et elle décide de partir en Angleterre faire un collège biblique. Et un collège biblique, un mouvement d'église très très charismatique, très Saint-Esprit, c'était pas tellement leur tasse de thé. Mais en tout cas, elle a appris les bases, elle a appris plein de choses. Et alors qu'elle est dans cet endroit, le Saint-Esprit commence à lui parler. Surprenant, n'est-ce pas? Je vous avais dit que Dieu fait ce qu'il veut, où il veut. Et le Saint-Esprit commence à lui parler et il lui parle du centre de la France. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un endroit, c'est la zone 51 de la France. Au milieu de la France, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est Poitiers-Laval. Enfin, vous savez, il y a très, très, très peu de... Il y a très peu, je vous parle des... Je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes déjà passé là-bas. Mougins, Brive-la-Gaillarde, Tulle, Montluçon, c'est des endroits, c'est sinistré, c'est des endroits, c'est même les médecins ne s'y rendent pas, on parle de ça, on dit c'est ce qu'on appelle des déserts médicaux, il y a très très peu de monde là-bas. Et elle, le Saint-Esprit commence à lui dire, lui donne un rêve, tu vas aller là-bas, tu vas implanter des églises là-bas. Est-ce que vous comprenez que pour ça, t'es sûr tu questionnes plusieurs fois cette petite voix qui te parle. Cette petite voix est là, dans son cœur, l'appel du Saint-Esprit se fait retentir et elle reçoit une ville, Châteauroux. Et elle m'a invité à venir avec toute une équipe à faire la louange, etc. Et je l'avais rencontrée dans ce moment-là où elle venait de prendre la charge d'une petite église à Châteauroux. Et elle me parle et elle me raconte son témoignage. Et son témoignage a été tellement bouleversant pour moi que ça a été un peu une de mes héroïnes de la foi, parce qu'elle a 30 ans, on avait à peu près le même âge. Mais la mesure du sacrifice qu'elle était capable de faire dans sa propre vie me bluffait. Jeune fille, tout lâchée. Et puis elle me faisait part de ses combats. Elle avait des problèmes de santé. Et elle disait, je suis venue ici sur l'appel de Dieu. Mais elle dit, voilà, elle me parlait de son célibat. Elle dit, je vais trouver où quelqu'un ici. Enfin, c'est le bout du monde. Et elle disait, je suis seule. J'ai des problèmes de santé. Elle avait un petit peu d'embonpoint. Elle me dit, regarde, je suis pas... Avec ma femme, on avait prié pour elle, etc. Et puis, elle faisait part avec une totale vulnérabilité de toutes ses peurs. Mais elle disait, par contre, je suis la petite voix, je suis ce que le Saint-Esprit m'a dit. Et elle a décidé de m'écrire, et je vous lis à cette époque-là. Mais elle dit, voici, au cours de ma deuxième année d'école biblique en Angleterre, j'ai contacté la mission française, France Mission. Et au cours de mon entretien avec cette mission-là, J'explique que le Saint-Esprit a mis très fort dans mon cœur un appel pour le centre de la France et en particulier pour la Creuse, qui est désertique en termes d'église. Et lors d'un entretien avec les directeurs, ils me proposent Châteauroux, car il y a là-bas 5 missionnaires à temps plein déjà en place. Je dis, waouh, ce serait déjà pas mal. Et en août 2008, une semaine avant mon départ, écoutez ça, les directeurs m'informent que les 4 missionnaires sur 5 sont partis. Ils me proposent d'aller dans une autre église, histoire de pas mourir, tu vois, dans une autre région. Mais à ce moment-là, l'appel du Saint-Esprit est très clair, c'est Châteauroux et rien d'autre. Et depuis 3 ans, je suis à Châteauroux, 3 ans, nous on la rencontre 3 ans plus tard. Elle dit, mon travail consiste à reconstruire l'église et son développement. J'ai redémarré l'école du dimanche, formé des nouveaux moniteurs, démarré des cellules de maison, des groupes de prière, des groupes de jeunes, réunions de prière, dirigé la louange, visité les personnes de l'église, comptabilité, créé un comptoir de l'église, groupe d'adoration, groupe de dames. Ma vision, écoutez ça, c'est hallucinant. Ma vision est de développer dans le centre de la France plusieurs églises. C'est ainsi qu'après 3 ans, nous allons commencer des projets dans une autre ville et implanter une église là-bas. J'étais célibataire en arrivant ici et je pensais que j'allais dans un désert spirituel et que je ne trouverais jamais personne. Mais quand nous sommes, et elle me marque ça, c'est bouleversant, quand nous sommes dans le plan de Dieu, même dans le désert, le Seigneur pourvoit toujours. Et il devient notre source au milieu du désert, même si on ne voit pas, même si on ne l'entend pas. Et dans tout ce qui, à l'époque, elle m'expliquait son célibat et tout, etc., le sacrifice de sa vie. Mais en septembre 2009, le prêtre l'église catholique, il y a 300 mètres de l'église où elle a démarré, il y avait une petite église catholique qui était à côté. Le prêtre Michael vient au culte pour connaître l'église évangélique. Après quelques dimanches, la présence de Dieu lui fait tellement de bien que finalement le prêtre Michael vient au culte pour se ressourcer. T'imagines le prêtre d'à côté qui vient là. Non mais véridique, dingue. Il vient au culte pour se ressourcer. Parce que, je fais une parenthèse, souvent, ce n'est pas le cas de tous les prêtres, mais certains prêtres, parfois, il n'y a rien de spirituel dans ses traits, une approche philosophique, etc. Seigneur, merci pour qu'il y ait des... Pour tous les catholiques, je précise que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, dans ce prêtre Michael, c'était le cas. Une approche très intellectuelle, le fait qu'il vienne baigner dans la présence de Dieu, de recevoir le Saint-Esprit, il y avait une fraîche, une onde fraîche qui venait sur lui et ça lui faisait du bien. Du coup, il venait au culte. C'est en juin 2010 que je commence son suivi pastoral. C'est une jeune fille pasteur d'une église qui suit le prêtre pastoralement de l'église d'à côté. L'accompagnement spirituel d'un prêtre catholique. Michael a plusieurs questions, notamment sur le Saint-Esprit, sa façon d'agir. Puis en novembre, il va dans une autre communauté évangélique où les deux pasteurs fondateurs sont d'anciens séminaristes catholiques. C'est à ce moment-là que le Seigneur touche particulièrement son cœur. Il fait une rencontre personnelle avec Jésus. Il découvre le Saint-Esprit et il décide, sans que personne ne lui dise, de quitter la prêtrise et l'Église catholique. Quelques temps après, des sentiments naquirent dans mon cœur pour lui. Après plusieurs rencontres, ces sentiments sont réciproques et finalement, il me demande en mariage. Michael a tout quitté, son logement, son église, et maintenant il est en période de reconstruction avec le Seigneur. Nous préparons notre mariage pour octobre prochain. Nous commençons ensemble d'autres projets d'implantation d'église dans tout le département. Est-ce que vous comprenez que de suivre parfois la petite voie, même si tu vas au désert, même si c'est pas compréhensible, même s'il n'y a rien, même si tu penses que ce qu'elle pensait, elle, tu vas mourir, tu ne trouveras personne, Dieu honore non seulement votre foi, mais il a prévu dans le plein désert d'être une source et d'être un approvisionnement. C'est extraordinaire. Et c'est délirant cette histoire. Et d'ailleurs, lui, quand il sort aller faire son marché, il y a toutes les petites mamies qui l'arrêtent. Oh, prêtre Michael, mon père. Il dit non, je ne suis plus père, maintenant je suis pasteur. Oh oui, bon, c'est pareil, si vous voulez. Il s'est mis à évangéliser tout le monde. Et il y a plein de gens qui viennent maintenant dans cette nouvelle paroisse. Si tu mets la prochaine diapo, regarde, c'est eux. Ils ont décidé, ils se sont unis et ensemble maintenant, ils marchent pour Dieu sous la conduite du Saint-Esprit. Si tu mets la prochaine diapo, on va les voir ici avec toute une équipe. Ils vont dans des endroits, ils implantent des églises. Il a passé un CAP de maçonnerie parce qu'il dit, mon appel, c'est d'implanter des églises. Est-ce que je vous parle ce matin d'une foi vivante? Je vous parle de ce que le Saint-Esprit est capable de faire? Il n'y a pas de mesure, on ne peut pas imaginer ce que le Saint-Esprit peut faire si on le suit.
Je vous invite à fermer les yeux. Lucie, tu peux venir mettre au piano, mon ami. J'en ai terminé ici, mais... Je suis venu vous exhorter, je suis venu vous engaillardir, je suis venu vous défier en disant est-ce qu'il serait possible qu'on ait, pour ceux qui ne l'ont peut-être jamais découvert, un baptême du Saint-Esprit. Pour ceux qui l'ont déjà rencontré, qu'il y ait un renouvellement du Saint-Esprit. Pour ceux qui ont du doute, qu'il y ait une puissante affirmation du Saint-Esprit. Mais ce que je vous propose, c'est maintenant qu'on puisse chercher de tous nos cœurs sa présence. Et je vous invite à vous lever maintenant à votre place.